Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, ce nouveau rapport de l'ONU qui met à nu les interventions directes de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Tenez, plusieurs commandants et responsables de l'armée rwandaise sont identifiés. Ils coordonnent les opérations de la force en RDC, indique ce document publié hier. Affaire gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle saisit à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge de Matata Ponyo. Mais pour le bureau du Sénat, il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites à l'endroit du sénateur Matata. Madame, Messieurs, bonjour. Des nouvelles preuves des interventions directes de l'armée rwandaise sur le sol congolais mises à nu par le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies, rapport publié hier mardi. Selon ce rapport, dans ses interventions directes, le Rwanda poursuit un certain nombre d'objectifs, à savoir renforcer les combattants du M23, mener des opérations militaires contre les FDLR et les groupes armés locaux, mais aussi protéger les sites miniers permettant ainsi l'exploitation des minerais pour le compte de Kigali. Le groupe d'experts dit avoir identifié plusieurs commandants et responsables de l'armée rwandaise qui coordonnent les opérations de la force en République démocratique du Congo. D'autres détails avec Kéline Kouté.
Ce rapport enseigne aussi que le M23 a adopté un nouveau schéma d'attaque contre la population civile, menant des opérations meurtrières visant des populations associées au FDLR et à d'autres groupes armés ou soupçonnés de les soutenir. Les annonces des retraits et des désengagements apparemment éphémères et stratégiques du M23 avaient principalement pour but de gagner du temps face à la montée de la pression internationale, indique le groupe d'experts. Plus loin, ce rapport précise que malgré les initiatives menées au niveau bilatéral, régional et international pour désamorcer la crise liée au M23, ce groupe armé qui fait l'objet des sanctions a continué d'étendre considérablement son territoire et de multiplier ses attaques causant une crise humanitaire de grande ampleur et le déplacement de plus d'un million de civils dans la province du Nord Kivu. Pour les experts, la diversité des équipements militaires du M23 dans certaines des productions récentes montre l'importante puissance des feux du groupe armé et atteste des violations des lambas sous les armes. Il note aussi que le conflit intercommunautaire dans la province de Maïndombé s'est intensifié. Par ailleurs, il indique que la situation politique est restée tendue à l'approche des élections générales prévues pour décembre 2023.
En réaction, les États-Unis saluent le rapport définitif du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Ils le disent dans un communiqué rendu public hier. D'après le bureau du porte-parole du département américain, les États-Unis condamnent les violences qui ont fait tant des morts, des blessés, des personnes déplacées et y tiennent que les responsables de ces actes en répondent devant la justice. D'autres détails avec Benny Lomeka.
D'après ces communiqués, les États-Unis appellent tous les groupes armés, y compris le M23, la CODECO, le FDLR, MAPI et d'autres, à cesser les hostilités et à déposer les armes. Ils demandent également aux groupes armés étrangers non étatiques de retourner dans leur pays d'origine et les groupes armés nationaux de rejoindre le processus de Nairobi. Par ailleurs, toujours dans ces communiqués, les États-Unis réitèrent leur appel du retrait immédiat de troupes de l'armée rwandaise du sol congolais et de poursuivre que le Rwanda devrait cesser immédiatement de soutenir le M23, dont le groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'il commettait de multiples violations du droit international humanitaire et de droits de la personne. C'est notamment le viol et des exécutions sommaires de civils. Par la même occasion, les États-Unis dénoncent la collaboration entre le FARDC et les différents groupes armés, en particulier le FDLR, et demande que la RDC mette immédiatement fin à toute collaboration avec ces éléments. Enfin, Washington salue les recommandations du rapport et continue de soutenir les efforts diplomatiques menés par l'Union africaine, notamment les processus de Nairobi et de Luanda pour promouvoir une paix durable dans la région.
Par ailleurs, la présence des M23 et des groupes armés à la base de l'insécurité dans les parcs de Virunga et Garamba dans la partie est de la RDC, l'administrateur de ces parcs, François-Xavier de Donéa, ministre d'État belge et membre honoraire de la Chambre des représentants belges, s'est entretenu à ce sujet hier à Kinshasa avec le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le compte rendu de Jacques-Yves Molima à Outa.
Nous sommes un acteur important sur le plan de la préservation de la nature, aussi acteur important du développement économique au Nord Kivu. Nous avons voulu informer le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, des efforts que fournit le parc de Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu, a fait savoir l'administrateur François-Xavier de Donéa au sortir de l'audience.
En tant qu'administrateur du parc de la Garamba et de la Virunga, je voulais donc informer le ministre de ce que nous faisions tant au niveau Virunga qu'au niveau du parc de la Garamba, au point de vue de la sécurité des populations et du développement économique des populations. Nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques des Maïmaï essentiellement pour le moment.
Victimes des attaques avec des pertes en vie humaine, l'administrateur François-Xavier des Donéa a toutefois relativisé la situation.
La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée. Donc là, nous n'avons pas de problème de milices locales. Mais au parc des Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes.
Notons que l'administrateur était accompagné de l'ambassadeur de la Belgique accrédité en République démocratique du Congo.
Je vous l'ai dit dans les titres, le procureur général près la Cour constitutionnelle saisit à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo. Jean-Paul Mukolo motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport de l'IGF sur la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce rapport, d'après lui, fait état d'infractions, défauts et usages des faux et de détournement des deniers publics à charge de l'ancien Premier ministre. Après l'exposé du procureur hier, en l'absence du sénateur Matata, le bureau du Sénat a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Modeste Bahati explique au micro de Michel Kifindangoy.
En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. D'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Il revient à la justice de nous poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier.
Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Contacté à ce sujet, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo promet de réagir au cours d'un point de presse ce mercredi. Pendant ce temps, l'opposant Franck Diongo, président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP, a été enlevé hier matin par des hommes armés en uniforme au croisement des avenues Kabinda et des Huileries à Kinshasa, selon le secrétaire général de ce parti qui livre l'information à Radio Kapi. Avant son arrestation, Franck Diongo était dans un deuil à l'hôpital du Cinquantenaire. Jusque-là, la cause de son arrestation et le lieu de destination ne sont pas connus. Professeur Loata Tambwe, Paul René, dénonce ce qu'il qualifie de dictature qui s'installe au pays. Il s'est confié à Grâce Hamzati.
Le mouvement lumumbiste progressiste dénonce énergétiquement et publiquement les méthodes dictatoriales mobutistes et kabilistes décriées par tous les Congolais. Il est surprenant de constater que c'est au cours du régime du fils d'Étienne, grand démocrate, que les dites méthodes refont surface, alors que les Congolais ne jurent que par leur enterrement. De surcroît, il n'y a pas d'état de siège à Kinshasa pour justifier l'utilisation des militaires dans les tâches administratives, politiques et surtout judiciaires. Le mouvement lumumbiste progressiste exige donc la libération sans condition ni délai de son président. La dictature ne passera pas.
Autre nouvelle, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC appelle le gouvernement à reporter la session ordinaire de l'examen d'État prévue à partir de lundi prochain. Le porte-parole de cette structure, Jean Bosco Puna, l'a dit à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue hier à Kinshasa. Il explique que leur démarche vise à amener le gouvernement à améliorer l'organisation de cette épreuve certificative nationale qui, selon lui, connaît quelques couacs. Jean Bosco Puna cite entre autres le non-paiement des primes intervenant dans l'organisation de cet examen et la fermeture du Centre national de sa correction. Ces propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Les enseignants réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de la République de reporter la date de la passation de la session ordinaire de l'examen d'État pour lui permettre de payer aux inspecteurs intervenant à l'examen d'État les différentes primes permettant le bon déroulement des épreuves, de convoquer toutes affaires cessantes les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement pour requalifier ses missions et ses attributions, de suspendre la retraite injuste imposé aux enseignants de la République et de les réhabiliter dans leurs droits, de suspendre la ponction de 10 000 francs défalqués irrégulièrement dans l'enveloppe de chaque enseignant en attendant l'augmentation des salaires promise par le gouvernement, de réhabiliter tous les enseignants désactivés injustement et de payer leurs arriérés de salaire. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite les inspecteurs intervenants à l'examen d'État de s'assurer.
Radio Okapi a tenté en vain de joindre le ministère de l'EPST pour avoir sa version des faits à ce sujet. Dans l'actualité aussi, défi de l'architecte congolais face à la pollution plastique, c'est le thème d'un atelier tenu hier à Kinshasa par la Commission Construction Verte de l'Ordre National des Architectes, ONA. Selon Fiyundo Doboni, président de cette structure, ces assises organisées en marge de la célébration de la Journée de l'environnement ont pour objectif majeur de réunir les scientifiques, les cadres des ministères et la société civile pour une sensibilisation intégrale sur la question de l'environnement et la pollution plastique. Fiyundo Doboni est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Aujourd'hui, s'il y a des mobilisations à travers le monde, des décaissements importants en termes de finances, les difficultés même en termes de maladies, en termes de ceci, si vous analysez très bien, la véritable problématique reste cette question liée à l'environnement. Donc il est important pour nous, en tant qu'acteurs, en tant que décideurs, nous puissions effectivement réfléchir sur cette question liée à l'environnement, particulièrement cette terme précis qui est celui de la pollution plastique. Alors, c'est aussi un honneur, pourquoi ? Parce qu'il faudra sensibiliser cette personne qui a la responsabilité dans la question de l'habitat, c'est-à-dire l'architecte, l'urbaniste, toutes ces personnes qui sont dans le monde de la construction. Donc, il est question également cet acteur important qui développe, qui est à 100% professionnel dans ces domaines, soit sensiblement sensibilisé aussi, de manière à ce que ils répondent aux questions réelles de la communauté.
Et puis, suite et fin de notre série de reportages sur la voirie de Goma, le déplacement dans cette ville du Nord Kivu est en général fluide, hormis les heures de pointe où l'on constate des embouteillages sur certains croisements. Les taxis, les bus, les motos restent les principaux moyens de déplacement des municipalités périphériques jusqu'au centre-ville et vice-versa. Cependant, les usagers des routes tels que les taximens, les motards, déplorent les actes de tracasserie des agents de roulage dont ils sont souvent victimes pendant les heures de prestations. Gabriel Ouamenia, reportage.
Nous sommes au rond-point Signers, l'un des plus grands ronds-points de la ville. En face de nous, des bus, des taxis et des motards en attente et prêts à embarquer les passagers. Les aides-chauffeurs communément appelés receveurs, connus sous le nom de bombers ici à Goma, et les motards, chacun de son côté, appellent ses clients selon les différentes directions. Mais le trafic urbain n'est pas du tout aisé à cause des tracasseries des agents de la police et des circulations routières, affirme ce chauffeur du bus trouvé sur place.
Il y a un peu de tracasserie par rapport à la route. Tous les rouages sont devenus nombreux. Bon, ils ravissent et ils quittent la maison en sachant que dans la route, c'est là où il va trouver l'argent et payer les tunes.
Lors du déplacement en ville, on peut facilement identifier les motards. Tous, excepté leurs passagers, portent des casques de protection et la soirée, ils portent des gilets d'identification. Rappelons que la mobilité dans la ville de Goma est facilitée par la qualité des routes entièrement asphaltées. Goma Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et les gouvernements des Pays-Bas et du Danemark ont lancé un fonds d'hydrogène vert d'$1 milliard. C'est pour aider à lancer une industrie dans la lutte contre le changement climatique. Lors d'un forum d'affaires organisé à Pretoria, le premier ministre néerlandais a déclaré que l'Afrique du Sud avait ce qu'il fallait pour mener la lutte contre le changement climatique. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.